Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui par exemple, Olivier et Sébastien, ce sera en deuxième heure. Nous sommes ensemble pour deux heures donc en direct. Et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média, comment le réseau social chinois TikTok fait trembler les géants américains de la tech. Quels sont les enjeux politiques qui se cachent derrière cette course aux followers qui sont en passe de devenir numéro 1? Et quid de l'espionnage? Réponse avec la journaliste Chloé Voitier qui suit ce dossier depuis plus de deux ans pour le Figaro Echo. Nos invités ensuite, une immense voix de la radio, de la télé et carrément du journalisme en France, je pèse mes mots, Jean-Pierre Elkabbach pour son livre de souvenirs, Les Rives de la mémoire, absolument passionnant, on aurait pu faire deux heures avec lui tranquillou. Enfin la chanteuse Anne Silla, oui, celle qui a remporté The Voice All-Star, pour son nouvel album Madeleine. Il y aura même un titre en live, sa reprise exceptionnelle du chanteur de Balavoine qui avait mis les poils à tout le monde. C'était lors d'une émission de Faustine Bollard. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Frédéric Le Tournier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Pas de Louise Bernard ce matin qui nous écoute et qu'on embrasse. Frédéric, au sommaire de votre journal des médias.
Au menu Philippe, le prix Albert Londres de la presse écrite qui revient à une femme, la journaliste du Figaro Margot Benne. Une exclue aussi ce matin, une enquête choc sur le traitement violent des animaux par le dresseur Pierre Cadéac sur les plateaux de tournage. Elle sort ce soir sur Vaquita, c'est le média indépendant créé par le journaliste et militant écologiste Hugo Clément. Et puis la suite du feuilleton d'Elon Musk et de Twitter, c'est cette fois, le nouveau patron reproche à Apple de ne plus acheter de pub sur le réseau social. Et enfin, l'équipe qui lance une émission consacrée au football sur la plateforme Twitch.
Mais avant ça, on regarde les audiences d'hier, le top 3.
Eh bien, le top 3, c'est évidemment le football, ah, Philippe.
Évidemment.
Pas de surprise, j'ai l'impression que c'est tous les jours comme ça. Sur TF1, c'était un petit peu plus tôt que le reste des programmes, c'était à 20h. Portugal-Uruguay, je sais même le score si ça vous intéresse.
Le score, je le connais, c'est 2-0.
2-0, exactement.
J'ai regardé, donc...
Parfait, eh bien, vous étiez nombreux à le regarder, près de 6 millions de spectateurs, 19,3%, c'est la part d'audience. En deuxième, eh bien, c'est sur France 2, la rediffusion de la série française policière L'Art du Crime, pas loin de 3 millions de spectateurs hier soir pour cette série, mais c'est une rediffusion, elle avait fait plus bien sûr en 2021. 13,5% de part d'audience. En troisième sur le podium, encore une rediffusion. Cette fois-ci, c'est un film, Une intime conviction avec Marina Foïs. 2,45 millions de spectateurs et 11,8% de part d'audience. Et puis ensuite, eh bien évidemment, Pretty Woman, un peu loin derrière. C'est un classique, mais tout le monde l'a vu.
Europe 1, le journal des médias.
La journaliste franco-canadienne Margot Benne a reçu en Lettonie hier le 84e prix Albert Londres de la presse écrite.
Oui, un prix qui distingue les grands reporters dans les domaines de la presse écrite, vous l'avez dit, mais aussi de l'audiovisuel et du livre. C'est pour ses articles retraçant la guerre en Ukraine qu'elle a obtenu cette prestigieuse récompense. Elle s'y était rendue en mars 2022, peu après l'invasion russe. Elle a pu rencontrer de jeunes Ukrainiens et des femmes qui partaient au front. Elle a raconté l'horreur des corps jonchant les rues. Elle ne parlait pas ukrainien et dit avoir eu tout à découvrir sur place. Un regard neutre qui a sans doute fait la différence. Le jury du prix a salué une plume singulière.
Une exclusivité Europe 1 maintenant, une enquête sur le comportement violent d'un célèbre dresseur envers les animaux sur les plateaux de tournage qui va sortir ce soir à 18h sur Vaquita, le média indépendant dirigé par Hugo Clément. Mais on vous donne l'info ce matin.
Exactement. Média indépendant qui a moins de 15 jours, Philippe, hein, moins de 15 jours d'existence, et fait déjà beaucoup parler de lui. Le concept, c'est le suivant. Au moins une vidéo engagée par jour et des journalistes investis qui vont recueillir les infos sur le terrain. Les abonnés seraient quant à eux comme des sentinelles. Le slogan « Vous alertez, nous enquêtons ».
Hier, Raphaël Antoven nous disait tout le bien qu'il pensait avec le numéro spécial de Franc-Tireur, justement sur les lanceurs d'alerte.
Et Hugo Clément en est un. Il nous raconte comment tout a commencé autour de l'affaire de ce soir.
En fait, notre enquête elle a commencé au printemps dernier quand une vidéo montrant Pierre Cadéac en train de frapper l'un de ses rapaces de manière très violente a été diffusée par l'association Paris Animaux Zoopolis. Et en enquêtant, en récoltant de nombreux témoignages, on s'est rendu compte que c'était visiblement pas un acte isolé et que cette méthode violente était même parfois revendiquée, selon ses témoins, par Pierre Cadéac comme étant une méthode de dressage à part entière.
Et c'est vrai que ce que vous allez voir ce soir est glaçant. Plus de 15 témoignages de personnes qui ont travaillé avec le dresseur et qui ont été choquées par son comportement. Voici un extrait de la bande-annonce.
Cette scène est superbe, mais regardez ce que les animaux ont enduré derrière. C'est ça qu'il faudrait faire voir aux gens.
On a l'impression que c'est un aigle libre qui est en train de voler au-dessus de la ville. C'est un cadavre d'un animal mort de stress face à un ventilateur dans une grange, quoi. Ils ont attaché un fil à sa tête pour que la tête soit droite et ne tombe pas. Et ils ont continué comme si de rien n'était.
Il y a le cas de Zania, une singe magot. Un jour, il a vraiment perdu son calme et il l'a tabassée à coups de poing en plein visage. Elle était défigurée, elle était en sang, il lui avait vraiment éclaté le visage, quoi.
Ça, c'est la face cachée du cinéma avec les animaux.
Mais c'est horrible.
Ouais, c'est vraiment glaçant. Hein. Ce que le journaliste espère, c'est une prise de conscience, voire du ménage dans certains milieux. Une enquête donc à retrouver sur vaquita.fr ce soir dès 18h.
Quand c'est fini, ça recommence. On évoque maintenant la suite du feuilleton d'Elon Musk et de Twitter.
Eh oui, on a l'impression que les rebondissements ne s'arrêteront jamais. Alors cette fois, le nouveau boss du réseau n'est pas content, car la marque Apple n'achète plus de publicité sur Twitter depuis qu'il a racheté l'oiseau bleu. Apple n'est pas la seule, de nombreuses entreprises ont décidé de faire de même. Mais là, c'est quand même un coup dur pour Musk, qui demande des explications à Tim Cook, le PDG d'Apple, qui avait déjà menacé de retirer Twitter de l'Application Store. Elon Musk crie au scandale et invoque de la censure. Bon bah Philippe, j'ai envie de vous dire suite au prochain épisode.
On verra ça peut-être demain. Mmh. L'équipe se lance sur la plateforme de streaming en direct Twitch, la fameuse plateforme, avec pour la première fois une émission consacrée au football.
Le Salon Tactique, tous les soirs de match à 23h. C'est une émission avec Zach Nani qui cumule plusieurs atouts pour animer ce rendez-vous. Alors premièrement, c'est déjà un gros streamer sur Twitch, donc il maîtrise les codes de la plateforme. Deuxièmement, il est suivi par une grosse communauté de fans. Et troisièmement, et tout aussi important, eh bien, il s'y connaît très bien en football. À ses côtés, deux journalistes de l'équipe, Raphaël Cosmidis et Dan Perez. Alors ensemble, ils parlent uniquement tactique footballistique lors de leur direct. C'est assez pointu. Hein. C'est ce qui leur permet de se distinguer vis-à-vis des autres contenus sur Twitch et aussi de ne pas empiéter sur ce que propose la chaîne L'Équipe. C'est ce qu'a expliqué à Louise Bernard Michael Busson, qui pilote le projet et qui est plus largement chargé de la vidéo et des réseaux sociaux de L'Équipe.
Il y a plein d'autres contenus et d'émissions sur Twitch qui parlent de football, mais elles en parlent souvent de manière différente. Vous allez avoir des réacts sur des documentaires, sur des matchs, avec des commentaires en direct de diffusion de foot. Vous allez avoir des débats, des débriefs, mais vous allez en avoir très très peu en fait sur cet aspect-là même du jeu. Donc c'est pour ça qu'on nous on vous laisse lancer un petit peu là-dessus. Il faut savoir aussi que dans notre environnement L'Équipe, on a forcément notre chaîne L'Équipe qui propose des débriefs elle après chaque match et qui le fait de manière de très bonne qualité. Donc on n'allait pas non plus proposer quelque chose de totalement similaire alors qu'on le propose déjà en fait sur un autre support.
Les audiences en direct sont gardées secrètes mais qualifiées de prometteuses. En replay, on peut voir que les vidéos cumulent des dizaines de milliers de vues, avec une tendance et à la télé c'est pareil, quand ça parle des bleus, les internautes sont évidemment plus nombreux à regarder la vidéo. Une question cela dit se pose, pourquoi le média L'Équipe juge nécessaire d'être présent sur Twitch? Est-ce que ça ramène de nouveaux lecteurs ou téléspectateurs? Louise Bernard a posé la question à Michael Busson.
Je ne pourrais pas vous dire que c'est d'une évidence qu'une personne qui nous voit sur Twitch le soir, le lendemain, on est sûr de l'emmener sur notre site internet. Ce serait faux, je vous mentirais. En revanche, on estime quand même que ça nous permet au moins d'exposer la marque L'Équipe, d'exposer son expertise à un nombre encore plus grand que ce qu'on peut faire quotidiennement. Et que donc, peut-être demain, ces personnes-là, soit la découvriront, parce que c'est des personnes soit qui l'ignoraient jusque-là qu'on faisait des choses comme ça, soit c'est des personnes qui tout simplement nous avaient fui parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans ce qu'on pouvait faire aussi. Donc c'est aussi une manière pour nous de tout simplement d'aller toucher a priori une audience plus jeune, mais aussi peut-être une audience qu'on a soit jamais touchée, soit perdue, ou alors qui nous ignore encore jusque-là.
Ce soir, L'Équipe sera en direct à 23h sur Twitch, donc comme chaque soir de match pour son salon tactique.
Merci beaucoup Frédéric Le Tornier. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média, je vais arriver à le dire, inscription gratuite, c'est sur europe1.fr. On vous retrouve demain pour
avec
un nouveau
plaisir.
Journal des médias. On embrasse Louise Bernard. Dans un instant, sur Europe, notre info média du jour, on s'intéresse au réseau social chinois TikTok qui fait trembler le monde américain de la tech. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est le petit dernier des réseaux sociaux. Enfin, quand je dis petit, il est chinois et il pourrait dépasser les maîtres américains de la tech. Vous avez reconnu TikTok. Numéro 1 des téléchargements aux États-Unis et en Europe depuis 2021. Rien ne semble pouvoir arrêter la progression de TikTok. Après avoir fait vaciller YouTube, après avoir fait vaciller Instagram avec leurs courtes vidéos, c'est maintenant au tour de Google tout entier de craindre le géant chinois. 100 millions d'utilisateurs dans le monde, 20 millions en France, soit deux fois plus qu'en 2020. Ça fait des milliards d'informations personnelle. Question, et si TikTok captait les données des Occidentaux pour le compte de la Chine? Comment endiguer le nombre d'utilisateurs de cette plateforme au profit de Meta, Instagram ou Snapchat? Quels sont les risques à voir TikTok et la Chine prendre la tête de tous les réseaux sociaux? Chloé Voitier, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Heureux que vous soyez ici, vous êtes journaliste tech au Figaro Echo, vous écrivez sur TikTok depuis 2020, depuis votre arrivée au Figaro. On n'est pas à un paradoxe près avec TikTok, ce réseau social cartonne dans les pays occidentaux, mais vous le racontez dans votre papier, il est interdit en Chine. Pour quelle raison?
Alors TikTok effectivement n'existe pas en Chine, il y a une autre application qui est éditée par le même groupe, donc le groupe s'appelle ByteDance, et cette application s'appelle Douyin, et c'est une application dont le fonctionnement est un petit peu différent de celui de TikTok.
Alors qu'est-ce qu'il y a de différent de TikTok, ou plutôt pourquoi TikTok est-il interdit en Chine? De quoi ont-ils peur?
Alors en fait, sur Douyin, par exemple, vous avez tout ce qui concerne les mineurs, les personnes de moins de 18 ans sur Douyin sont limitées à 40 minutes de connexion par jour. Et l'application n'est pas accessible entre 22h et 6h du matin pour s'assurer que les mineurs, les adolescents ne vont pas regarder cette application la nuit. Mmh. Également, les contenus sont beaucoup plus éducatifs parce que tout ça, ce sont des consignes en fait, des consignes politiques, des consignes du Parti communiste chinois qui fait attention et souhaite faire très attention à tous les contenus qui sont exposés face aux yeux de la jeunesse du pays. Et voilà, souhaite que ce soit plutôt quelque chose d'éducatif que quelque chose de purement divertissant.
Donc ils veulent bien de ça, mais chez les autres, pas chez eux.
Exactement.
Comme les pays scandinaves qui exportent leur pétrole, mais qui essaient de s'en servir le moins possible. ce qui est absolument passionnant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas une lutte entre réseaux sociaux, c'est que c'est un réseau chinois qui se mesure aux géants américains. Si TikTok avait été américain, vous ne seriez peut-être pas là pour en parler. On n'aurait pas fait une spéciale Instagram ou une spéciale Snapchat. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette montée en puissance de ce réseau chinois, selon vous, Chloé Voitier?
Alors effectivement, le fait que TikTok soit chinois, c'est vraiment le grain de sel sur dans toute cette affaire. Parce que sinon, comme vous le disiez très bien, ça aurait été voilà, une guerre entre entreprises absolument classiques. Un petit nouveau qui vient mettre un petit peu le bazar dans des entreprises bien établies, dans une industrie bien établie. Non, en fait, la TikTok, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ils ont conquis les smartphones occidentaux. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, il y avait 5 fois moins de Français qui utilisaient TikTok par jour. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 9 millions chaque jour qui se connectent à TikTok. Par mois, on est à 20 millions. C'est énorme. C'est encore très loin d'un Facebook. Un Facebook a dépassé amplement les 40 millions d'utilisateurs quotidiens, mais il monte à grande vitesse.
Alors, il n'y a pas que la France d'en bas, il y a la France d'en haut. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que TikTok peut être un cheval de Troie? Le 29 mars dernier, vous signiez un article intitulé « Culture, sport, TikTok ». Étend son influence. Et vous racontez le fait que TikTok a réussi l'exploit d'être partenaire du Festival de Cannes. En quoi est-ce un coup de maître? Je comprends absolument ce qui intéresse TikTok dans le fait d'être à Cannes pendant le festival. Pourquoi Cannes a dit oui à TikTok?
Alors parce que pour Cannes, pour le Festival de Cannes, c'est l'occasion de se dire on va pouvoir toucher les jeunes, on va pouvoir toucher une population qui est peut-être moins sensible au cinéma. En allant sur une application sur laquelle les jeunes sont connectés. 70% des adolescents américains utilisent TikTok. C'est absolument massif. Donc, c'est une manière pour eux de se dire on va toucher cette population en invitant des influenceurs TikTok à aller sur la croisette, à faire des selfies, à faire des vidéos, à monter les marches, à aller voir les films et à en parler. Du côté de TikTok, ce qui est intéressant, c'est une sorte... on cherche aussi une certaine respectabilité. On cherche à se faire connaître. Donc, TikTok, en France, a été extrêmement fort pour nouer des partenariats avec les plus grands musées français, avec les plus grands événements culturels. Ils sont également très forts sur la sphère sportive au niveau européen. Ils ont été partenaires du tournoi Destination, par exemple. Ils ont été partenaires de l'Euro de foot. Ils ont été partenaires de l'Eurovision. D'événements vraiment très, très importants et qui sont vraiment ancrés dans la culture européenne.
C'est ce qu'on appelle du soft power, un peu la manière dont le Qatar investit, par exemple, dans le PSG. C'est pas seulement pour gagner de l'argent avec le club, mais c'est aussi faire parler de soi en bien et pas toujours en parlant des droits de l'homme. Je pense à la Chine, par exemple. Toujours dans ce papier, vous nous informez de la nomination d'Éric Garandeau, avec un nom pareil, on sent qu'il est français, à la direction des affaires publiques en France. Décrivez-nous cet homme, d'où vient-il? Quelles sont ses compétences? Il est nommé à un très haut poste.
Il est nommé à un haut poste. En fait, Éric Garandeau, c'est un homme de réseau, c'est un homme qui vient du monde de la culture, qui a travaillé dans de nombreux cabinets ministériels, qui a eu des postes importants au sein des médias et des médias publics. Donc voilà, c'est pas innocent que TikTok se soit tourné vers ce genre de profil lorsqu'ils ont ouvert un bureau français, parce que ça permet de nouer des relations avec, on a dit, le monde de la culture, mais également le monde politique.
Alors, je vais dire ce que j'ai relevé dans votre papier. Ancien président du CNC, c'est pas rien, c'est le Centre National du Cinéma, administrateur de France Télévisions, d'Arte du Festival de Cannes et aussi ancien conseiller culturel de Nicolas Sarkozy. Donc c'est quelqu'un qui a des entrées partout.
Oui, voilà, un très beau CV qui est toujours utile voilà, quand une entreprise souhaite, étrangère souhaite s'implanter en France.
Voilà, donc on est totalement dans la définition du soft power. Mm-hmm, c'est peut-être soft, mais il y a beaucoup de power.
Oui, il y a beaucoup de power, oui. Oui, oui, et TikTok a longtemps joué un peu les bons élèves auprès des autorités, mais là, le vent est en train de tourner.
De quelle manière ?
Là, par exemple, hier, donc l'ARCOM, l'ancien CSA, le nouveau nom du CSA, a un peu tapé du poing sur la table sur, par rapport à TikTok. Est-ce que les réseaux sociaux qui opèrent en France à partir d'un certain volume d'utilisateurs doivent rendre, tous les ans, doivent donner un compte-rendu de leurs actions pour la lutte contre la haine en ligne, contre la désinformation ? Contre la désinformation et la manipulation de l'information. Et TikTok, bon, c'est la première année qu'ils rendaient leur questionnaire, et leur questionnaire était, voilà, ce que disait l'ARCOM, était parcellaire, ne répondait pas aux questions, donnait des informations assez floues. Et ce qu'a dit l'ARCOM, ce n'est pas possible en fait. Une application qui est aussi puissante auprès des jeunes, auprès des Français, ne peut pas rendre ce type de rapport. Il va falloir qu'ils fassent beaucoup mieux et très vite.
Alors, l'inscription de TikTok dans le paysage français est extrêmement prégnante, puisque TikTok investit tous les domaines de l'espace social, dites-vous. Et vous racontez même que Pôle emploi a son compte TikTok.
Oui, oui, Pôle emploi a son compte TikTok. En fait, ils avaient lancé une opération qui a déjà été renouvelée entre TikTok et Pôle emploi, voilà, pour diffuser des vidéos, pour expliquer aux jeunes voilà, comment faire un CV, comment faire une recherche d'emploi, comment faire une lettre de motivation, comment préparer un entretien d'embauche. Ouais, c'est ce type d'opérations qui se sont nouées, parce qu'on voit aussi l'intérêt du côté des institutions et des acteurs publics, c'est se dire on va toucher les jeunes là où ils sont, et ils sont sur TikTok.
TikTok a investi, j'ai dit tous les domaines de l'espace social, qui d'autre ? Pôle emploi et qui d'autre en France ? Qui va se convertir ou qui s'est converti à TikTok ?
Je pense là, les premiers noms qui me viennent, c'est les musées. Les musées, il y a aussi voilà, des filières qui cherchent...
Musées, je vous interromps, oui, c'est moins inquiétant parce que ce n'est pas étatique, institutionnel à la manière de Pôle emploi, qui consiste à trouver du travail aux gens. Mm-hmm. Un musée, on peut y aller, ne pas y aller. Pôle emploi, on est quasiment obligé d'y aller. Et Pôle emploi détient sur vous des données que ne détiennent pas les musées, et c'est tant mieux.
Oui.
Qu'il y a cette peur-là. Il y a la peur de l'espionnage. Il y a que deviennent ces fichiers. C'est pour ça aussi qu'on fait cet entretien avec vous.
Allons-y, parlons de cet aspect-là, en fait, de l'aspect un peu problématique, problématique de TikTok, c'est son origine chinoise. Il y a un soupçon. Il y a un soupçon autour de TikTok qui plane autour de cette application depuis au moins 2020. En 2020, Donald Trump, donc président des États-Unis à cette époque-là, a souhaité interdire TikTok sur tout le territoire national américain. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crainte que TikTok soit en réalité le phoné de Pékin. Mmh. Alors, ça peut jusque-là, ou au moins de se dire que les liens... en fait, Pékin a les moyens de demander à ses entreprises technologiques de lui donner des informations, de communiquer des données. C'est la même chose aux États-Unis. Les entreprises américaines, les entreprises, voilà, que ce soit Amazon, Google, Facebook, dès que des données sont hébergées aux États-Unis, techniquement, le gouvernement américain a le droit d'accéder à ces informations. C'est exactement pareil avec TikTok. Avec TikTok et les entreprises chinoises de la tech. Pékin a le pouvoir de leur demander ces informations. La question est, et si, on n'en a aucune preuve, mais et si, Pékin utilisait TikTok, qui est quand même dans les smartphones d'énormément de personnes dans le monde occidental, pour insidieusement essayer de manipuler les opinions, de faire entrer certains questionnements, parce que la puissance de TikTok, c'est son flux de recommandations de vidéos.
On n'a aucune preuve qu'ils le font, mais on n'a non plus aucune preuve qu'ils ne le font pas.
Exactement, on n'a aucune preuve. La seule chose qu'on sait, et là ils l'ont reconnu, c'est que des employés de TikTok basés en Chine peuvent accéder à certaines informations qui normalement sont stockées, en Europe ou qui sont stockées aux États-Unis. Ils peuvent y avoir accès. Alors TikTok dit oui, alors c'est très sécurisé, etc. Mais il n'empêche que cet accès se fait.
Vous avez un compte TikTok ?
Alors, je n'ai pas de compte TikTok, mais je l'utilise, je le nourris pas. Je l'utilise en fait pour regarder ce qui se passe sur cette application. Et c'est vrai que ce qui est le plus impressionnant, c'est la puissance de son algorithme de recommandation. Parce que sur TikTok, en fait, c'est les vidéos qui viennent à vous.
Merci beaucoup, Chloé Voitier. Je rappelle que vous êtes journaliste tech au Figaro Echo. Et je salue également les agents chinois de TikTok qui nous écoutent certainement, puisque Europe 1 est diffusé partout dans le monde via europe1.fr. Dans un instant, une immense voix de la radio, de la télé et du journalisme en France, c'est Jean-Pierre Elkabbach. On parle de son nouveau livre de souvenirs passionnants. Ça s'appelle « Les rives de la mémoire ». À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour.
Faut-il vous présenter? Carrière longue comme le bras, qui a démarré en France à Paris Inter, qui s'appelait pas encore France Inter, c'était en 61. La maison de la radio n'était même pas construite. Vous avez surtout fait les belles années d'Europe 1. À la télé, vous avez démarré à l'ERTF, la deuxième chaîne, Antenne 2, France 3, France Télé, dont vous avez été un temps le président, TF1, Public Sénat. Vous avez également dirigé, je me souviens de l'émission Biotech Médicis, enfin CNews. Et votre actualité, Jean-Pierre Elkabbach, c'est ce livre de souvenirs, Les Rives de la Mémoire. C'est publié par Bouquin. Gros, gros travail. 440 pages écrites serrées avec de l'anecdote à foison où vous rencontrez les grands de ce monde, de l'Atlantique à l'Oural, comme disait le général de Gaulle. D'ailleurs, il y a de Gaulle. Ça va jusqu'à Poutine, en passant par l'Américain Nixon, Margaret Thatcher, Gorbatchev, Nelson Mandela. Évidemment, tous les présidents de la Ve République. Vous ne faites pas que les croiser. Vous déjeunez souvent avec eux.
Il n'y a pas que ceux. Il y a aussi les artistes, les scientifiques, les gens anonymes, les syndicalistes. Je pensais ce matin que j'avais connu à peu près tous les syndicalistes, de, par exemple la CFDT, de Edmond Maire à aujourd'hui Laurent Berger, ou de la CGT de Georges Seguy à M. Martinez.
Je vais résumer ça, quand je lisais le livre, je me disais « il a connu tout le monde ». Il fallait faire des choix, on s'est focalisé sur la partie média. Je vais commencer par cette phrase « taisez-vous Elkabbach, c'est apocryphe ». On règle le problème tout de suite. Georges Marchais n'a jamais dit cette phrase.
C'est ce qu'on raconte, mais moi, je l'ai entendu. Puis de cette forme et de multiforme, si on pouvait éviter de me parler de Georges Marchais, parce que j'ai beaucoup aimé, je crois qu'on s'est assez disputé, c'était connu. C'était même des soirées comiques, je m'entendais très bien avec lui. Je savais comment le prendre, parce qu'il défilait des notes et des notes et des notes. Et sur sa respiration, je le prenais. Et c'est lui qui m'a annoncé un jour au maquillage, entre les élections présidentielles et législatives, que je faisais partie des gens qui étaient sur la liste noire du PS. Ils disaient « c'est pas nous les communistes ». C'était un grand orateur, mais qui faisait perdre beaucoup de voix au Parti communiste.
Je vais parler ensuite de vos évictions. Vous avez une carrière extraordinaire. Je voulais qu'on parle de cette émission « Carte sur table » avec Alain Duhamel. Racontez le principe, parce que je trouve que ce principe n'a pas vieilli.
C'est-à-dire qu'il y a une petite table et qu'on était l'un et l'autre face à l'interlocuteur, on était très proches. Et c'est Serge Julie qui avait dit une émission où chacun était à portée de gifle. Et c'est vrai qu'on ressentait, surtout qu'on était avec Jacques Chirac en particulier, le Jacques Chirac du début.
Bien sûr.
Hein, qui faisait peur à tout le monde et qui lui-même avait peur de nous. Qu'à tout moment, il pouvait y avoir ce déclenchement d'une baffe pour l'un ou l'autre. Et puis le problème, c'était de sortir de l'interlocuteur le maximum d'idées nouvelles qui animent le débat public. Et on faisait attention avec Alain Duhamel, on préparait d'une manière extrêmement serrée le même questionnement. Le même questionnement. Et à la fin de l'émission, on disait « Ah, les questions de Duhamel, lui, il était tout blond avec des yeux bleus. Alors lui, c'était le bon ». Et moi, j'étais le méchant, tout le temps.
Good cop, bad cop.
Voilà, à peu près.
Or, c'était la même liste de questions. Le 16 mars 81, c'est une émission historique. Vous recevez François Mitterrand. Le jour même, le Figaro, c'est vous qui le racontez. Ça m'avait échappé. Titre sur 5 colonnes. 62% des Français se prononcent contre l'abolition de la peine de mort. Et pour cette raison, en préparant l'émission avec Duhamel, vous dites, on va faire une question de ça.
Eh bien, on lui pose la question sur l'abolition de la peine de mort. Et il m'a semblé, ou nous a semblé surpris. Il a pris son gros stylo pendant que nous posions la question, un gros stylo Montblanc, et sur une feuille, une petite feuille blanche, il a écrit 2-3 mots, et il nous a répondu en conscience, « Si je suis élu, j'abolirai la peine de mort ». Et quelques temps après, Robert Badinter, qui était un grand ministre de la Justice, a écrit dans un de ses livres, « Si la question n'avait pas été posée, peut-être l'abolition de la peine de mort n'aurait pas eu lieu. » Parce que François Mitterrand, candidat, avait mis en avant et en priorité cette grande révolution plutôt que réforme.
Il y a une histoire dans cette
histoire.
Et vous
savez qu'il y avait, j'y repense,
allez-y.
Il y avait un détenu qui attendait, avec la peine, qui était condamné à la peine de mort, qui de sa cellule voyait la guillotine tous les matins et qui attendait le 10 mai. Ou bien je perds la tête, ou bien je suis sauvé. Il a été sauvé, c'est Badinter qui est allé le lui dire. Le type a fait 18 ans de prison. Quand il est sorti, il était un des grands spécialistes. Il est resté un des grands spécialistes du Moyen-Âge.
François Mitterrand était très content de cette question, en tout cas pas mécontent. Mais une fois les caméras éteintes, les plus proches conseillers de Mitterrand vous tombent dessus.
Oui, à tous les deux. Vous le payerez. Et effectivement, on l'a payé.
parce que ses plus proches conseillers sont devenus ministres.
Oui, c'était tous ceux qui vont devenir la Mitterrandi, sauf Badinter qui a regardé l'émission de chez lui, sont tombés sur nous en disant « vous avez voulu le piéger, vous verrez, s'il gagne, vous verrez ce qui vous attend ». Et c'est vrai qu'Alain Duhamel a perdu le commentaire qu'il faisait ici, commentaire remarquable. Et moi, j'ai perdu toutes les émissions et j'ai fréquenté la NPE.
Ça va même plus loin.
J'ai aucune rancune parce que ça m'a formé.
Ça va même plus loin que ça. Après l'élection de François Mitterrand, vous êtes donc viré de la télévision. On connaît cet épisode de chasse aux sorcières. Ce que je ne savais pas, c'est que vous avez eu un jour la très mauvaise surprise d'apprendre la nouvelle de votre suicide. Quel effet ça fait, vivant, d'apprendre qu'on est mort ?
D'abord, c'est surprenant. On venait de déjeuner avec Nicole Avril, on avait terminé le livre d'entretien entre nous. Et je déjeunais avec Louis Berriot, qui avait été un collaborateur formidable, et avec sa femme, et on rentrait chez nous. Et on a trouvé à la fois la concierge et des gens qui étaient passés. On avait annoncé que je m'étais suicidé. C'est qu'on ne sait pas à quel point j'aime la vie. Et j'étais surpris. D'abord, on s'est surpris. Et comme ça m'est arrivé aussi une deuxième fois, ça m'a fait beaucoup rire.
Au passage, vous mettez un petit tacle à votre confrère Yvan Levaille. C'est page 251. Le matin sur Europe 1, la politique était le précaré d'Yvan Levaille, une voix aussi talentueuse que partisane, qui avait réclamé ma tête tous les jours en mai 81, au nom de la liberté d'expression, bien sûr.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Vous croyez que je vais revenir en permanence sur les petites histoires ? J'ai gommé le plus possible l'histoire.
Vous ne pouvez pas dire ça, c'est dans votre livre.
Oui.
Je l'ai recopié ce matin.
D'accord, mais ce n'est pas l'essentiel.
Bien sûr que non.
Même quand je parle des médias, ce n'est pas l'essentiel.
Bien sûr que non.
Parce que c'est vrai que ça existait.
Ouais.
Et que mon excellent confrère Yvan Levaille, tous les matins, interrogeait des gens, les nouveaux, les socialistes. Et alors, à votre avis, je prends au hasard.
Allez-y.
Non, c'est lui qui disait.
Ah, pardon.
Je prends au hasard. Jean-Pierre Elkabbal, est-ce qu'il doit rester ou est-ce qu'il doit démissionner le lendemain ? Au hasard, je prends son nom. Et c'était comme ça pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que j'ai perdu momentanément la tête.
Portrait formidable, en revanche, d'Alain Duhamel. Vraiment splendide. Tout le monde aimerait qu'on écrive ça un jour de soi. Qui lit 5 heures par jour toute la presse ? Qui se passionne pour les Mérovingiens, la guerre de Cent Ans ou les mémoires de Bismarck ? Qui sait magistralement démontrer l'actualité de ce passé ? Mon incorrigible ami Alain Duhamel. La banalité des jours, la médiocrité des êtres ne l'intéresse pas. Il vit dans son monde idéal dont il n'accepte de sortir que pour débattre et décrypter l'actualité. Je veux le dire par là, et vous avez raison, que c'est un livre extrêmement positif. Je ne vais pas dire résilient, mais extrêmement généreux.
J'ai gommé toutes les petites anecdotes. Et j'ai supprimé toutes les polémiques petites, mesquines, de la part de gens qui ont fait une partie de leur avenir professionnel en tapant sur moi. J'ai gommé ça. C'est rien au niveau de l'histoire. Et quand le temps passe et la distance vient, ça n'a aucun intérêt. Tous les matins, quand je faisais l'interview ici, comme vous, à la même place, je me demandais si des historiens dans 5 ans étudie ce que nous avons fait, nous tous, dans les médias. Qu'est-ce qui restera ? Qu'est-ce que je peux faire qui restera et qui montre que j'ai essayé de saisir les évolutions du temps, ce qui était en train de se préparer dans les sociétés, dans les profondeurs des sociétés et qui allait émerger. Ça, je l'ai fait toute ma vie. Et je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup est resté depuis l'époque où je faisais Actuel 2 avec René Dumont, que je défendais la cause des femmes, etc. Tout ça, c'est une continuité dans une vie et cela reste.
La plus grosse difficulté avec Jean-Pierre Elkabbach, c'est d'arriver à le couper. On marque une courte pause, on revient avec lui. On parle aussi des années 2000 parce que l'histoire ne s'arrête pas en mai 81. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Jean-Pierre Elkabbach, on parle de son livre de souvenirs, Les Rives de la Mémoire. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et hier, vous avez été très surpris par un reportage que vous avez vu passer dans le journal de 13h de France 2.
Oui, un reportage exceptionnellement court, Philippe. 1 minute et 13 secondes qui m'a laissé légèrement sur ma faim. Je vous raconte. Ça s'est passé en plein milieu du journal. L'information qu'avait choisi de traiter France 2 était la suivante.
Le tunnel du Mont Blanc va devoir fermer pour travaux à partir de l'an prochain.
Le tunnel du Mont Blanc va fermer. Allons bon. Et pourquoi ?
La chaussée doit être entièrement refaite et les voûtes du plafond désamiantées.
Parce que la route est toute pourrie et le plafond bourré d'amiante. Bien, le chantier est colossal et donc les travaux vont durer très longtemps.
Deux solutions sont envisagées. L'ouvrage pourrait être condamné pendant 3 ou 4 ans d'affilée, ou bien 4 mois par an pendant 18 ans.
Voilà, alors ça c'était donc l'information parfaitement résumée, merci. Restait ensuite à lui trouver un mode de traitement, un angle. Et celui que France 2 s'est choisi était on ne peut plus simple, puisque la chaîne a opté pour les conséquences de cette fermeture. Alors très bien, mais lesquelles ?
Pour aller en Italie, il faudra emprunter le tunnel du Grand Saint-Bernard ou celui du Fréjus, plus au sud, dans la vallée de la Maurienne.
Eh bien, les conséquences pratico-pratiques pour les voisins du tunnel du Fréjus.
Un report du trafic qui ne plaît pas aux habitants de cette vallée.
France 2 est donc allé tendre son micro à un autochtone très inquiet.
On est pas mal pollué par ce qui passe déjà, alors ça va pas améliorer le système.
Et c'est tout. Le reportage s'est arrêté là, 1 minute 13 secondes, circuler, fermer le banc et le tunnel. Alors, je suis resté un peu sur ma faim, Philippe, parce que les conséquences pratico-pratiques sont effectivement tout à fait préoccupantes, mais il y en a d'autres. Et celles que je m'attendais à voir évoquées sont des conséquences politiques. Car figurez-vous que le tunnel du Mont-Blanc, autour duquel il ne se passe généralement, soyons honnêtes, pas grand-chose, vient tout juste de connaître une actualité. Oui, oui, il y a eu un changement, mes enfants. Christophe Castaner, professionnel en tout et chien fou de la Macronie, vient d'y être nommé, nommé président il y a tout juste 12 jours. Alors c'est un job épatant hein, qui rapporte 150 000 euros par an, auquel s'ajoute un chauffeur et un appartement de fonction. Et c'est le président de la République qui choisit à qui il échoit. Et j'ai été très surpris qu'on ne nous en parle pas, qu'on ne nous parle pas de lui, parce que je me suis posé une question. Si le tunnel doit fermer pendant 3 ou 4 ans, est-ce qu'on est sûr qu'on a vraiment besoin de payer Castaner 150 000 euros par an ? Et si le tunnel ferme 4 mois par an pendant 18 piges, est-ce que les émoluments de l'ancien ministre de l'Intérieur, battu aux élections législatives de juin dernier, vont être diminués du tiers ? Eh bien, on ne sait pas. Alors, je ne crois pas, Philippe, hein, que ce soit prévu, mais en même temps, ça tombe bien, car Christophe Castaner, qui n'avait plus de boulot, a également été nommé cette fois par le ministre des Transports, Clément Beaune, et par le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, nommé donc à la tête du grand port maritime de Marseille. Marseille, Mont-Blanc, la distance est grande. En effet, une fermeture du tunnel devrait donc permettre à Christophe Castaner de rester un peu plus concentré sur sa nouvelle casquette, hein, celle de capitaine de port. Nous voilà rassurés. Malheureusement, hier midi, France 2 n'a pas eu le temps de le faire. Et oui, la télévision aussi. Hein, à la télévision, il arrive, cher Philippe, qu'une partie de l'information reste coincée sous un tunnel.
Est-ce que vous êtes sûr que le port de Marseille va rester ouvert ?
À moins qu'une sardine ne le bouche.
Ça vous amusait d'entendre cette info ?
Oui, mais ça me surprend. Non, c'est pas une révélation.
Ouais.
Chaque fois, quand un leader politique ou a perdu ou a du temps, pour lui, le président nomme des amis. C'est en quelque sorte la maison des copains.
On a bien compris. Mais le sujet de
c'est
Bruno,
pas nouveau.
C'est pourquoi ça n'est pas dans le sujet ? Comment se fait-il que ce ne soit pas mentionné ?
Oui, j'étais surpris qu'on ne pose pas le micro dans la rue, micro-trottoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de M. Castaner ?
Jean-Pierre Cabache, Bruno Donnet, vous avez cette détestation en commun, à laquelle je peux m'ajouter, c'est les micro-trottoirs. Pourquoi ça vous exaspère, les micro-trottoirs, Jean-Pierre Cabache ?
Toujours un oui. Remarquez, il y a toujours quelqu'un qui dit « je suis tout à fait d'accord avec la mesure », quelqu'un « j'hésite, je ne sais pas, je pense, je vais en parler à ma famille », et l'autre qui dit « il n'en est pas question, c'est mauvais pour le territoire, il faut plus de verre ».
Et ça
il
fait un sondage représentatif.
Des recours, et on dit « c'est la voix des Français, il ne faut pas se foutre de nous ».
On est bien d'accord. On
les Français valent mieux que ça.
Je remercie Bruno Donnet. On va entendre votre marque de fabrique à la radio sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Ce sont des interviews sans complaisance, justement. Vous posiez les questions, même celles qui fâchent. On va entendre dans l'ordre Marine Le Pen, Fleur Pellerin, Bruno Le Maire, quand il faisait encore partie de la droite, et le socialiste André Vallini, tout juste nommé garde des Sceaux.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Vous n'avez pas honte ?
Pardon ?
Vous n'avez pas honte ?
Honte de quoi ?
Vous n'avez pas de regrets ?
Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach ?
Vous n'étiez pas
Je vous reconnais bien là, dans la provocation.
Il paraît que maintenant vous lisez.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai jamais cessé de lire Jean-Pierre Elkabbach.
Fiches et les dossiers techniques. Non.
Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche.
Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous ?
Et qu'est-ce qui vous dit Jean-Pierre Elkabbach ? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner ? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche ?
Bonjour.
Bonjour.
Quelle couleur vous préférez pour le mur ?
Pour le mur, quel mur ?
Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser.
Extraordinaire, non, ça vous faisait rire encore de l'entendre ces extraits.
Mais j'étais quelquefois injuste. Je me suis fâché, par exemple, avec Bruno Le Maire.
À cause de cette interview particulière.
Qui n'est pas forcément rancunier, mais nous nous voyons un peu moins. Et vous auriez pu citer Georges Marchais. Oui. Les communistes étaient dans le gouvernement de François Mitterrand et ils hésitaient entre on reste, on s'en va. Ils étaient quatre. Mmh. On reste, on s'en va. Un jour, j'ai vu arriver dans les couloirs d'Europe 1 Georges Marchais. La première question que je lui ai posée, je lui ai dit mais vous boitez pas ? Il me dit comment je boite ? Bien sûr que je boite pas. Je lui dis mais oui, vous avez un pied à gauche et un pied à droite. Plein de bêtises.
Vous avez une drôle de maillotique.
Mais c'était pas des procédés. Hein.
J'ai bien compris.
Ça dépendait de l'humeur, du moment, la mienne, la sienne.
C'était quoi votre manière de travailler ? Parce que vous dites que vous rencontriez les interviewés auparavant pour leur dire quoi ? Parce que parfois on n'arrive pas à savoir s'ils sont prévenus ou s'ils tombent de l'armoire.
Pas du tout, ils tombent de l'armoire. Mais nous avions remarqué avec Alain Duhamel qu'après un carte sur table, souvent. L'interlocuteur nous disait ah, « c'est dommage, parce que je voulais parler de ceci, de cela ». Et notre questionnement portait peut-être pas assez sur ce qui allait arriver. Alors on s'est dit 15 jours ou 20 jours avant, oui, puis j'ajoute que l'interlocuteur voulait parler. Souvent, il parlait pour pas dire grand-chose.
Oui.
Alors on s'est dit « on va aller les voir 15-20 jours avant, on va leur dire « voilà l'émission, il y a un rythme, il faut répondre à des questions comme chez vous, assez vite, etc. » On les préparait, mais on ne voulait pas savoir ce qu'ils allaient dire. Sauf peut-être une ou deux fois. C'était avec le président Giscard d'Estaing. Il y avait toute la crise autour des diamants, ou des soi-disant diamants de Bokassa. Et il allait parler avec nous. Il y avait eu une conférence de presse, 500 journalistes, il n'y en a pas un qui lui avait posé la question. Et après, ils allaient nous reprocher de l'avoir posé, mais l'avoir pas assez insisté. Et on lui a dit, nous poserons une question sur les diamants. Il n'en est pas question. Eh bien, nous lui avons dit, oui, c'est notre job. Parce qu'on s'est dit, comme il n'a commenté auprès de personne ce qui lui est arrivé, peut-être fera-t-il la phrase qui restera et qui sera historique. C'est ce qu'il a fait.
Je vais parler de vous, de votre carrière. Il y a eu des hauts, des bas. Après la disgrâce, il y a eu le retour en grâce. Vous allez devenir en 93-94 le président de France Télévisions. Vous aviez candidaté, vous aviez constitué un dossier. Et là, cette révélation, page 311, vous dites « Vous aviez tout fait pour convaincre les neuf sages du CSA, c'était inutile. Bien plus tard, écrivez-vous, j'ai appris que François Mitterrand et Édouard Balladur s'étaient mis d'accord sur mon nom dès le mois de juin 93. Pourquoi je parle de ça ? Parce que vous écrivez ceci qui nous ramène en 2022. Aujourd'hui encore, écrivez-vous, l'indépendance de la haute autorité de l'audiovisuel me semble purement formelle. Les nominations importantes continuent d'être décidées au sommet de l'État. Les procédures institutionnelles qui les entérinent sont dérisoires. Ces hautes autorités sont le faux nez du pouvoir. Sans le nommer, vous n'êtes pas tendre avec l'ARCOM qui est le nouveau nom du CSA. Ça ne sert à rien.
Il y a la réponse. Ma réponse, vous venez de la lire.
Oui.
Mais j'y crois pas. J'y crois pas.
Quand vous parlez
qui nomme le président ? Qui nomme chacun des interlocuteurs ? Il y a en général trois types du président, trois personnes du président de la République, trois personnes par le chef de l'État et trois personnes par le président de l'Assemblée nationale. Quand il y a une majorité, vous croyez que le président de l'Assemblée nationale va prendre des libertés par rapport au président de la République ? Donc le choix, c'est déjà six. Quand il y a la résistance du Sénat, il y a les amis du Sénat. Et donc, il y a un déséquilibre où toujours l'avantage est donné en toutes circonstances et aujourd'hui et demain, ça sera de la même manière. Même quand on mettrait une soi-disant commission audiovisuelle qui écoutera les candidats éventuellement, le choix aura été fait ailleurs et avant. Et dans tous les domaines, c'est les cas des nominations, mais pour l'audiovisuel, moi, je suis surpris. Je suis pas surpris. Là, ce qui me fout un peu la trouille, si je puis dire, et j'ai tort de parler de cette façon, c'est la menace pour l'avenir de l'audiovisuel public. On n'est pas ici à l'audiovisuel public, mais je le dis parce que le pouvoir promet un plan pluriannuel pour financer les télévisions et les radios publiques privées de redevances. Bah, il faudra se montrer gentil avec les prochains gouvernements pour ne pas être pénalisé. Madame, la sanction sera constamment aux portes des studios. Et imaginez un gouvernement autoritaire qui se plaindra parce qu'il n'aura ni la contradiction, ni l'humour. Et à ce moment-là, à chaque impertinence, une punition, moins de budget, je l'ai connu. Donc je dis à mes amis d'en face, la garantie actuelle de moyens n'est pas une garantie éternelle. Faites gaffe, les gars.
Paradoxalement, Jean-Pierre Elkabbach, le reproche que vous font vos adversaires, c'est d'avoir toujours eu l'oreille du pouvoir. Mais vous résumez votre carrière et quand même, ça fait réfléchir. Ai-je été récompensé de ma prétendue complaisance envers le pouvoir ? Et vous racontez, muté pour des raisons disciplinaires sous De Gaulle en 68, remercié sans ménagement sous Giscard en 74, abattu et prêt d'être lynché sous Mitterrand en 81 et poussé à la démission sous Chirac en 96.
C'est un palmarès, hein ? Je pensais l'autre jour que s'il y avait des Jeux olympiques dévidés, j'aurais plusieurs médailles d'or.
Oui, mais non, parce que vous êtes aussi toujours là depuis 61. S'il y a une personne qui a toujours occupé le terrain, c'est Jean-Pierre Elkabbach.
Je suis tombé de cheval, je suis remonté à cheval. C'est le travail. La longévité, c'est le travail. Ce qui m'a permis de revenir, c'est le travail, c'est-à-dire la curiosité, tous azimuts, oui, et le travail. Et en même temps, quand je dis la mémoire, c'est notre mémoire. C'est la vôtre, c'est la mienne. Et d'autre part, j'ai toujours été intéressé par la politique, mais la politique avec une majuscule. Je ne supporte pas la politique avec une minuscule, comme ça se produit souvent.
La popole, la petite politique politicienne. Et je dois dire que la dernière phrase du livre est celle-ci. « Je n'ai pas guéri de ma curiosité ». Comme disait mon grand-père, c'est une belle maladie. Oui. Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabbach d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ce livre, « Les rives de la mémoire ». C'est publié chez Bouquin. On aurait pu faire une heure encore. Achetez le livre et lisez la manière dont Jean-Pierre Elkabbach et Patrick Lelay, à l'époque patron de TF1, sont allés voir Chirac pour créer un bouquet satellite concurrent de celui de Canal. C'est un délice. Merci encore.
Mais qu'est-ce qu'il disait ? Mais dites-le.
Est-ce qu'il y aura du sumo, Elkabbach ? Est-ce qu'il y aura des sumos dans votre chaîne ? Oui. Lelay, est-ce qu'il y aura des westerns ? Ouais. Eh bien, on va le faire. Voilà. Mais c'est dingo de savoir que les choses se passent comme ça. C'était la petite souris que vous étiez pour nous. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Culture Média sur Europe 1 continue après les infos de 10h. Notre invité, c'est la chanteuse révélée par The Voice, Anne Silla, pour son nouvel album. Ça s'appelle Madeleine, album de reprise. Et puis dans les indispensables du cinéma et de la BD, et Jean-Luc Lemoyne pour sa session de rattrapage. A tout de suite sur Europe 1.